franceinter.fr.
La consommation de cannabis pendant l'adolescence est-elle toxique pour le cerveau ?
Oui, alors je vais vous dire en plus, le cannabis est un sujet que je connais très très bien. Mon fils est passé par là, figurez-vous.
Ah oui ?
Ah oui, Charles Apollon a sombré dans la drogue à l'âge de 14 ans, le pauvre. Oh, je lui disais, mais Charles Apollon, mais pourquoi ? Pourquoi fumes-tu autant ? Il me disait, mais maman, mais parce que les cigarettes ou hachiche, c'est bon, quel imbécile. Il faisait de l'humour, les frontés, ah oui, vraiment.
Voilà, Charles Apollon et tous les autres, 40% des jeunes Français de 17 ans disent avoir essayé, des chiffres en hausse d'ailleurs en 2015 selon l'Éducation nationale. Et dans ce contexte, une étude menée par des toxicologues américains devrait faire parler d'elle. Après avoir suivi pendant 10 ans plus de 2000 adolescents, dont de nombreux jumeaux, les chercheurs ont conclu que l'usage du cannabis n'a pas d'effet toxique direct sur le cerveau. Bonjour Laurent Carilla.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Et puis bonjour à vous Dominique Dupagne.
Bonjour.
Qui est avec nous dans ce studio. Dominique Dupagne, cette étude parue dans les PNAS aujourd'hui est pour le moins originale. Quel était d'abord l'intérêt de suivre des jumeaux ?
Bien, généralement, on trouve des liens statistiques entre la prise de cannabis et une détérioration intellectuelle à l'adolescence. Et on se bagarre pour savoir si c'est un lien de cause à effet ou si c'est juste une coïncidence qu'elle y a des facteurs, autres facteurs qui participent à cela. Et donc, l'intérêt des jumeaux, en tout cas des vrais jumeaux surtout, c'est d'avoir des individus totalement identiques à l'épigénétique près, mais en tout cas très proches génétiquement. Et donc, de se dire que s'il y a une différence observée, si un fume du cannabis et l'autre n'en fume pas, c'est probablement cette fois-ci du cannabis et non pas une éducation différente à des facteurs de confusion qui vont fausser ces statistiques.
Laurent Carilla, que pensez-vous de ces résultats ?
Déjà, l'étude est très très intéressante, la méthodologie est très très bien faite, mais je pense qu'il faut d'emblée poser des limites. Enfin, quand on lit le papier dans les détails, on voit bien que on ne voit pas l'impact de la consommation massive de cannabis, enfin la consommation élevée de cannabis chez les ados et donc leur impact sur leur fonction cognitive. Et là, le fait que le QI seul... Bon, il n'y a pas d'impact, mais on sait que un QI est touché de manière multifactorielle, en fait. Il y a l'environnement, la famille, la maison, les amis, enfin, tous ces facteurs jouent. Donc, c'est une donnée qu'on connaît un peu. Je pense qu'on ne peut pas poser de conclusion définitive, en fait.
Les chercheurs confirment un lien statistique entre un faible QI et une consommation de cannabis, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire que le cannabis ne favorise ou ne favorise pas le déclin cognitif, Dominique Dupagne.
Oui, c'est exactement ça. On a encore une fois la notion que c'est multifactoriel, la création de capacités cognitives, et il y a une agitation très forte autour de la responsabilité potentielle du cannabis. Il y a des études qui trouvent un lien statistique très fort, d'autres moins fort, mais comme toujours, et comme vous le savez ici, on en a beaucoup parlé à propos de ce que j'appelais les stats à la con, c'est pas parce qu'il y a un lien statistique qu'il y a un lien de cause à effet. Alors maintenant, bien évidemment, cette étude ne peut pas disculper le cannabis.
Oui.
Mais en tout cas, elle dit, attention, il n'y a pas de certitude. Bon, en plus, le cannabis, on peut s'en passer quand même. C'est pas comme si c'était un aliment, si vous voulez. Mais peut-être que il faut en profiter pour dire à des parents qui seraient totalement paniqués parce que leur fils, ils ont trouvé un joint dans la chambre de leur fils, que c'est pas idéal, certainement, qu'il fume du cannabis, mais que c'est pas pour autant qu'il va rater son bac.
Oui. Pourquoi votre prudence, justement, Laurent Carilla, qu'on entend bien dans l'interprétation, en tout cas dans votre lecture de cette étude?
Ça me fait peur toujours ce genre d'études. Après, on peut le cannabis est toxique chez l'ado, c'est clair. Les études d'imagerie cérébrale le montrent. Je veux dire, ça touche différentes structures du cerveau qui n'ont pas fini leur maturation. On sait que la maturation cérébrale finit autour de 20-25 ans. Et je pense que isoler une variable comme ça en disant cannabis et QI, bon, ok, on a vu sur des jumeaux, le jumeau pareil, enfin le jumeau non consommateur n'a rien. Je pense qu'il faut être prudent. Je pense que il y a un effet toxique net du cannabis chez le cerveau d'un ado qui est en pleine maturation.
Au-delà du kiwi, quels sont les autres dangers avérés et documentés liés à l'usage du cannabis, Laurent Carilla ?
Et du kiwi.
Du kiwi. Du QI.
Pas ah, du kiwi, j'ai compris, le kiwi.
Oui, non, le kiwi, c'est le kiwi.
C'est le cannabis. Les fonctions cognitives touchées sont plutôt les fonctions mnésiques, la mémoire de travail, etc., la mémoire attentionnelle. Et les fonctions exécutives, comme prendre des décisions, etc., sont des variables. Et d'ailleurs, dans cette étude, ils disent bien qu'ils n'ont pas mesuré ces variables-là. Et c'est des variables vraiment importantes pour l'apprentissage et les relations sociales.
C'est le tabac, finalement, le plus embêtant dans la consommation de cannabis ?
Le tabac, c'est un cofacteur, en fait, qu'il faut prendre en compte. Le tabac altère aussi les fonctions cognitives. On a l'habitude de dire ça améliore la concentration, etc. Mais le tabac, de manière chronique, en tout cas, altère les fonctions cognitives. Mais c'est deux problèmes, on va dire, c'est la concomitance des deux problèmes à prendre en compte en tout cas.
Ouais, Dominique Dupagne, on focalise beaucoup sur le cannabis, oui. L'alcool également est un vrai problème.
Je ne cherche pas, enfin cette étude ne cherche pas à réhabiliter le cannabis, et moi non plus,
non, on est d'accord, soyons clairs. On a bien compris.
Mais il faut simplement une échelle de gravité. C'est-à-dire, l'alcool est un fléau terrible, une des drogues les plus dures qui existent, qui est largement répandue, l'alcoolisme est un problème.
En vente libre.
Les parents voient leur gamin qui boit deux bières, ils s'en fichent, ils voient leur gamin qui fume un joint, ils sont terrorisés, si vous voulez. Il faut relativiser. Le mieux, c'est bien évidemment de ne pas consommer de produits qui soient toxiques. Mais dans le cadre du récréatif, en effet, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux? Il ne s'agit pas d'inciter les jeunes à fumer du cannabis, mais à dire à des parents qui seraient... Moi, j'en vois régulièrement arriver à mon cabinet. Docteur, docteur, on a trouvé un joint dans la chambre de notre fils. Genre, il voit déjà les seringues d'héroïne qui arrivent. Alors que vous l'avez dit, il y a 40% des jeunes qui ont déjà plus ou moins essayé du cannabis, ou plus ou moins régulièrement. Donc, il faut à la fois dédramatiser, il faut bien sûr pas inciter, hein, mais il faut dire ce n'est pas la condamnation absolue des neurones du gamin parce qu'il a fumé un peu de cannabis. On n'a pas de preuves de ça. On a des pistes.
Et par rapport à l'alcool, là encore.
Et l'alcool est le vrai fléau. Ouais. Et c'est vraiment un énorme problème qui revient en flèche. Parce qu'on d'ailleurs, on a fait tellement peur aux gamins avec le cannabis que maintenant, ils picolent en soirée parce qu'ils cherchent toujours quelque chose pour se mettre la tête à l'envers. Donc, ça va être le produit légal et celui qui est le moins pointé du doigt.
Laurent Carrie, là, vous établiriez aussi ce classement en mettant l'alcool en premier?
Ouais, je fais pas trop de classement, mais c'est vrai que Dominique Dupagne a raison. L'alcool, c'est un vrai problème avec le binge drinking. Mais il y a aussi d'autres consommations de produits. On voit les poppers, le MDMA qui revient en poudre, la cocaïne, etc. Donc ça reste des microphénomènes, mais ça reste des phénomènes existants. Mais oui, il faut mettre le cannabis. C'est vrai que il faut pas affoler les parents avec le cannabis, mais quand même le cannabis reste, je veux dire, le problème des ados en France actuellement en substance illicite. En tout cas.
Quels sont les risques d'addiction quand on consomme du cannabis? Ils sont importants?
Il y a un risque, ouais, il y a un risque de dépendance au cannabis, bien sûr. Quand on consomme tous les jours, quand on a des symptômes de manque, quand on augmente les doses. Ce matin, je voyais en consultation un jeune patient, ou des jeunes patients même, ils ont tous à peu près la même histoire. C'est que, ils consomment une substance de manière régulière. Alors, il y a le tabac qui rentre en jeu, bien évidemment, parce qu'on fume pas des joints purs, on n'est pas en Jamaïque. Et ils ont ces envies de consommer, ils pensent à consommer, ils ont des envies irrésistibles. Et il y a des conséquences qui sont scolaires, qui peuvent être psychologiques et physiques aussi.
Allez Dominique, pour terminer.
Oui, juste une question pour vous, M. Carrie. Quand vous voyez des jeunes adultes, je dis bien des jeunes adultes en consultation d'addictologie, quelle est la proportion de ceux qui viennent pour une dépendance à l'alcool par rapport à ceux qui viennent pour une dépendance au cannabis?
Moi, si vous voulez, c'est extrêmement biaisé chez moi parce que j'ai des étiquettes, mais c'est vrai que, prenons plutôt dans un centre, c'est vrai que l'alcool vient en un, avec le tabac, et en deux, j'ai envie de dire, il y a différents types de drogues, mais le cannabis reste présent chez les jeunes adultes, et en co-consommation aussi.
Merci beaucoup Laurent Carrie d'être venu nous éclairer à la Une de la Science. Merci beaucoup Dominique Dupagne, dont on peut d'ailleurs découvrir le portrait, on peut le signaler aujourd'hui dans le cahier Science et Médecine du Monde, justement, nos partenaires. Voilà, merci beaucoup Axel.
J'allais manger des kiwis.
Et à demain, bonne consommation. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, justement, pour nos invités, c'est une première, des fleurs ont poussé dans la Station Spatiale Internationale après les salades en 2014. Le système de culture en apesanteur veggie réitère l'exploit avec des plants de zinnia. Mis en culture en novembre, les chercheurs espèrent obtenir des données sur les ramifications des racines en apesanteur et sur le pollen dégagé par les fleurs. Il s'appelle Sleeping Beauty, la beauté endormie. Après avoir passé 30 ans congelé à moins 20 degrés, ce minuscule tardigrade vient de se réveiller. Les tardigrades sont parmi les organismes les plus mystérieux et résistants de notre planète. Il aura fallu presque 2 semaines à Sleeping Beauty pour sortir complètement de sa torpeur, appelée également cryptobiose, et pour qu'il recommence à manger les algues mises à sa disposition. Les chercheurs suggèrent que ces animaux ont besoin d'un certain temps pour réparer les dégâts accumulés par leur corps pendant la congélation. Et puis pour terminer, une vidéo impressionnante, toujours dans le domaine du microscopique, un robot capable d'aider les spermatozoïdes à féconder un ovule. Mis au point par des nanoscientifiques allemands, ce robot guide en forme de spirale est piloté par un champ magnétique. Il s'enroule autour de la queue du spermatozoïde et le transporte tout simplement jusqu'à la surface de l'ovule. Un espoir pour tous les problèmes d'infertilité liés à la nage des spermatozoïdes et surtout une belle démonstration technique que vous pouvez découvrir en vidéo sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré.